Série Apologie numéro 2. Dieu et sa parole ou raison. Un enseignement du révérend Rico Magnelli. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et soyez les bienvenus à cette conférence téléphonique spéciale. Comme vous vous en souvenez depuis la première conférence téléphonique spéciale, apologia est un mot grec qui peut signifier une réponse de vérité face à une accusation. Souvenez-vous que le sens de ce mot n'est pas celui d'une excuse qui consiste à reconnaître sa culpabilité ou à demander pardon pour un acte répréhensible. Le concept d'apologie remonte aux philosophes grecs de l'Antiquité comme Socrate et permet de répondre à des accusations en se défendant par la vérité. En partant de la vérité que nous avons déjà examinée, nous voulons aborder la question de savoir ce que les chrétiens doivent faire lorsqu'ils se trouvent dans une impasse entre eux. Lorsque ces défis ne sont pas résolus, nous passons souvent à côté de ce qu'il y a de bon dans la vie. Lorsque de tels conflits surviennent, la question à se poser n'est pas de savoir qui a raison, mais ce qui est juste. En effet, la question « qui a raison » ou « avec qui es-tu » tend à mettre l'accent sur les personnes, alors que la question « qu'est-ce qui est juste ?» ramène l'attention sur la vérité. La réponse correcte est « Dieu et sa parole ont raison ». C'est avec lui que je me tiens et sur quoi je me tiens. Il est alors beaucoup plus facile de régler les différends qui nous opposent. Dans cet enseignement, nous allons donc nous concentrer sur le fait que Dieu, et donc sa parole, a raison. En vérité, sa parole nous éclaire, non pas physiquement, mais spirituellement, afin que nous puissions comprendre comment relever les défis de la vie. En psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui nous permet de savoir comment naviguer dans la vie, parce que c'est seulement la parole de Dieu qui a la puissance du lumen, la lumière assez brillante pour exposer même les nuances les plus subtiles de la vie. Nous savons que, selon Hébreux 4:12, la parole est également vivante et efficace, ou vivante et énergique. C'est une parole vivante venant d'un Dieu vivant. C'est donc à Dieu que nous faisons confiance et que nous nous en remettons pour diriger nos pas. Sa parole nous montre les étapes à suivre dans la vie. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En tant que personne mûre en Christ, la nourriture solide dont nous avons besoin nous fournit la nourriture spirituelle nécessaire pour nous aider, car l'ennemi spirituel est une faiblesse et une incapacité à répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. Elle est due à une mauvaise alimentation ou à la négligence de la parole. Les chrétiens passent trop de temps à manger des traditions et des commandements d'hommes, alors que souvent Dieu n'a rien à voir avec ses édits. La foi du Christ, son œuvre accomplie, devrait être le plat de résistance du régime chrétien. C'est pourquoi nous avons besoin d'aller à la nourriture de la parole pour une vraie nourriture. Hébreux, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Seule la nourriture de la parole, qui représente la nourriture solide, dont l'assimilation nécessite une digestion plus développée, permet à l'homme mûr de faire réellement la distinction entre le bien et le mal. Un système digestif spirituel moins développé, que l'on trouve souvent chez les jeunes chrétiens ou les chrétiens charnels, passe à côté de ces nuances. C'est la nourriture de la parole qui fournit quelque chose de solide pour construire une plus grande compréhension. C'est ce type de compréhension de la parole et pas seulement un regard superficiel qui est nécessaire pour vraiment identifier le bien et le mal. Le mot « bien » ici est intéressant. Il est traduit du grec « kalos » et s'écrit ou se translittère « k-a-l-o-s ». Et le mot « mal » est traduit d'un mot grec « kakos » translittéré « k-a-k-o-s ». Lorsque nous examinons ces deux mots côte à côte, « kalos » et « kakos », nous remarquons qu'il n'y a qu'un seul caractère de différence entre eux. Sinon, ils se ressemblent. C'est souvent ainsi que les choses se passent dans la vie. Il est parfois difficile de faire la distinction entre le bien et le mal, car le mal se déguise en bien pour tromper intentionnellement l'œil non averti ou, à tout le moins, pour confondre les naïfs. C'est pourquoi nous devons nous éclairer à la lumière de la parole. Il est si important d'en venir à la parole elle-même, et non aux opinions, à la parole. Que dit la parole? Il s'agit d'une victoire sur le monde, waouh! Comme nous l'avons vu dans le premier épisode de l'Apologie, les pratiques du monde consistant à diriger de haut en bas ou à dominer le peuple de Dieu ne sont pas bonnes. Nous avons appris comment Jésus-Christ, Luc 22, 25 à 27, l'apôtre Paul, 2 Corinthiens, 1-24, et l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, 1-3, ont souligné l'erreur et le remède à cette pratique mondaine. Souvent, Dieu utilise des contrastes pour nous faire comprendre les choses. Il fait ressortir un point en mettant deux choses côte à côte pour les faire ressortir plus clairement, comme la lumière et les ténèbres, c'est facile à comprendre. Ou bien il parle des œuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Nous allons examiner deux récits et voir le contraste entre eux. Dans le premier, Actes chapitre 15, les apôtres, en tant que groupe, étaient présents et la ligne de conduite qui en a résulté est que la parole était vivante et qu'elle allait l'avant pour toutes les personnes impliquées. Les résultats étaient bons. Dans le second récit, Actes chapitre 21, les apôtres, en tant que groupe, n'étaient pas présents et l'action entreprise a eu pour résultat que la parole n'était pas vivante et en mouvement et que la connaissance de la grâce par le Christ, qui est la raison d'être du christianisme, a été balayée du revers de la main. Le mal a pris l'avantage et les conséquences négatives en ont résulté. Nous verrons clairement dans le récit d'Acte 21 que Paul était en fait contrôlé, qu'on lui disait « Faites ce que nous disons ». C'est un autre exemple de domination sur le peuple de Dieu. Acte 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Ceci n'est pas vrai. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. C'est très bien. Maintenant, je veux faire attention à cette phrase « les apôtres et les anciens ». Elle revient 5 fois dans ce récit, 5 fois. Ici au verset 2. Regardez le verset 4, s'il vous plaît. Vous le verrez à nouveau. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres, au pluriel, et les anciens. Regardez maintenant le verset 6. Les apôtres et les anciens. Regardez maintenant le verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens. Et enfin, au verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens. Il apparaît donc 5 fois dans ce récit. Le chiffre 5 est souvent associé au concept de la grâce dans la parole. La grâce par le Christ contre le légalisme et le contrôle de la loi. Voilà ce qui était en jeu ici. Verset 3. Après avoir été accompagné par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et causèrent une grande joie à tous les frères. Bien sûr, des gens naissent de nouveau et reçoivent le don du Saint-Esprit, c'est fantastique. Tout le monde se réjouit de voir de nouvelles personnes gagnées à la parole. Et les gens qui étaient gagnés au Christ n'étaient pas d'Israël, c'étaient des païens, représentant toutes les autres nations. Verset 4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Maintenant, je veux m'arrêter ici, parce que c'est très important. Ils déclaraient ce que Dieu avait fait avec eux. Il ne s'agissait pas d'eux, mais de ce que Dieu faisait. C'est remarquable. Lorsque nous sommes enthousiasmés par ce qui se passe dans nos régions, dans nos communautés, par des choses comme ça, nous voulons en parler aux gens. Nous sommes enthousiasmés par ce que Dieu fait dans nos vies et par le fait que nous pouvons faire des choses avec sa participation. Nous sommes ravis de nous associer à Dieu en tant que compagnons de travail. La clé ici est le mot « avec », que Dieu fait avec eux. Ce mot « avec » est une préposition grecque « méta ». Dans cet usage, il signifie « en association avec » ou dénote « un compagnonnage ». Wow! Pouvez-vous imaginer être en association avec Dieu, en compagnie de Dieu, en partenariat avec Dieu? Une autre façon de l'exprimer est la communion avec Dieu. Ils démontraient qu'ils avaient une relation avec Dieu. C'est ce que Dieu veut vraiment. Dieu s'intéresse davantage à ce que nous faisons avec lui qu'à ce que nous faisons pour lui, parce qu'il veut être impliqué. C'est lui qui ouvre les yeux de notre cœur. C'est lui qui nous apporte la consolation en tant que Dieu de toute consolation. C'est lui qui apporte la paix en tant que Dieu de la paix dans notre cœur. Jésus-Christ est le chemin, mais le chemin mène à Dieu, le Père. Dieu veut que nous fassions des choses avec lui. Si l'on n'y prend pas garde, faire des choses pour Dieu peut facilement se transformer en œuvre pour être accepté par Dieu. Vous savez, je fais cela pour Dieu. Et en soi, ce n'est pas mauvais, mais vous voyez, cela peut se transformer en les faire pour être accepté par lui. Mais nous avons déjà été acceptés par lui grâce à l'œuvre achevée de son Fils. Nous sommes acceptés par l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'y a plus de travail à faire pour être accepté. C'est fantastique. Continuons à lire au verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens, le voilà, se réunirent pour examiner cette affaire. Vous voyez, ils l'ont considéré en tant que groupe. Une grande discussion s'étant engagée, en d'autres termes, tout le monde avait son mot à dire. Cette inclusivité est si importante dans la manière dont les chrétiens doivent fonctionner. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit, il s'agit du don, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. C'est vrai, tous les chrétiens sont égaux aux yeux de Dieu en raison de l'œuvre du Christ, que la Bible appelle la foi du Christ. Personne n'est en haut, personne n'est en bas, nous avons tous le Christ en nous. Et nous partageons la même foi, la foi de Jésus-Christ. C'est vraiment ce que signifie la notion de maisonnée. Nous partageons la foi du Christ, c'est-à-dire son œuvre accomplie pour notre salut en tant que famille. Verset 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter. Bien sûr, nous partageons tous la même foi en Jésus-Christ. C'est la maisonnée. Et il dit, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Verset 11. « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que le salut est par la grâce. Il s'agit d'une faveur divine non méritée. Nous n'y sommes pour rien. Nous avons cru en Jésus-Christ, mais il l'a accompli pour nous. Quelle grande vérité !» Verset 12. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. C'est Dieu qui était à l'œuvre dans ces situations. Les versets suivants indiquent que c'est Jacques qui préside cette réunion et qui donne la direction en se basant sur toutes les contributions. Verset 22. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, le voilà encore une fois, et à toute l'Église, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens, voilà l'occurrence finale dans ce récit, et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut! Il est intéressant de noter qu'il les a appelés frères d'entre les païens. Ils savaient qu'ils étaient frères et sœurs dans la famille de Dieu. Grâce à l'œuvre du Christ, la famille de Dieu ne se limitait plus à ceux qui appartenaient à la lignée d'Israël. Elle comprenait désormais toutes les personnes qui acceptaient le Christ. Ils savaient qu'ils étaient frères et sœurs. C'est magnifique. Verset 24. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Je tiens à souligner une chose dans ce verset 24. Il est dit que quelques hommes partis de chez nous vous ont troublé par leur discours. Le mot troublé est traduit du mot grec tarasso. Ce mot tarasso signifie remué, agité, troublé par des émotions diverses. Eh bien, c'est contraire à ce qu'il aurait fallu faire. Lorsque les apôtres et les anciens se sont mis d'accord avec l'ensemble de l'Église, ils ont donné leur accord en tant qu'Église entière pour envoyer des communications écrites. C'est ce que dit Éphésiens 4, 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mais ceux qui les avaient troublés, ce qui provoquait, c'était de l'agitation, ce qui signifie troublé par des émotions diverses. Une fois que les gens sont agités par des émotions et que la peur s'installe, toute déformation ou perversion de la vérité peut être transmise. Même si les gens savent que quelque chose est absolument vrai, qu'ils l'entendent de leurs propres oreilles et qu'ils le voient de leurs propres yeux, si vous leur faites subir une pression émotionnelle suffisante, ceux qui étaient convaincus commencent à réfléchir et à douter de la vérité ou de la réalité de cette chose. Aujourd'hui, on parle de déstabiliser quelqu'un, c'est-à-dire que l'on s'efforce de manipuler les gens en les agressant verbalement et mentalement de manière incessante pour leur faire croire que quelque chose est contraire à ce qu'ils savent être vrai ou juste. Ce n'est pas bon. Paul fait état de cette pratique dans le livre des Galates. Galates 1, verset 6. Je m'étonne, Paul s'étonne, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul s'étonne qu'il se soit éloigné de la grâce qui est dans le Christ Jésus. Il est question d'un autre évangile, et le mot « autre » signifie qu'il n'y a que deux évangiles en jeu. Il y a le véritable évangile, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et puis il y a tout le reste. Comment ont-ils manipulé les gens jusqu'à ce qu'ils croyaient et sur quoi ils s'appuyaient fermement comme une conviction s'effondre simplement et qu'ils aillent dans la direction opposée? Galates 1:7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, tarassos, remués, agités, dérangés par diverses émotions et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils attisent les émotions des gens par des mots, des accusations, des menaces ou des intimidations. Cela conduit à pervertir l'évangile. Pervertir signifie transformer ou changer. Voilà où et comment cela se passe. C'est incroyable. Mais il faut que les gens s'agitent jusqu'à ce que des personnes qui ont marché selon la parole et ont vécu la parole en harmonie se tournent l'une vers l'autre comme des ennemis. Il est dit en Galates 4, verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? » Comment cela s'est-il produit? Eh bien, cela commence par les émotions, l'intimidation et finalement le contrôle. Les gens deviennent des objets à contrôler plutôt que des enfants de Dieu à aimer. Ensuite, ceux qui s'efforcent de les aider à se rétablir en leur disant la vérité deviennent l'ennemi. C'est satanique. L'unité ne se construit pas en éliminant les gens. L'unité se construit un cœur et une âme à la fois. Et tous ceux qui le font connaissent l'amour et le travail que cela demande. Il faut du temps pour travailler avec les gens. Les gens ne sont pas de simples pièces d'échecs sur un échiquier à utiliser stratégiquement pour faire avancer l'agenda de quelqu'un. Il faut du temps pour travailler avec eux et beaucoup de patience. Vous voyez, l'unité se construit sur la vocation unique que nous partageons tous. Ensuite, en toute humilité ou douceur, avec patience et en nous supportant les uns les autres avec la charité, nous pouvons nous efforcer de conserver cette unité, comme le dit Éphésiens 4, 1 à 3. Il faut beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. C'est la même chose que lorsque vous construisez la relation une seule chair dans le mariage. Il faut beaucoup d'amour et de pardon. Même Jésus-Christ a pardonné à Judas, qui l'avait trahi. C'est cela l'amour. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Pourquoi n'ont-ils pas pu? Qu'est-ce qui indique qu'ils n'étaient pas en mesure de le faire? Verset 3. Parce que vous êtes encore charnels. Charnels signifie qu'ils vivent toujours exclusivement par leurs cinq sens et ne comportent pas l'Esprit de Dieu. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ouah! C'est Dieu qui fait grandir sa parole dans le cœur de l'homme par la grâce. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation, c'est en s'associant à Dieu que l'on y parvient. Pendant la guerre de sécession, on aurait demandé à Abraham Lincoln de quel côté se trouvait Dieu. Et j'apprécie vraiment sa réponse. Voici ce qu'Abraham Lincoln est censé avoir répondu. « Monsieur, mon souci n'est pas de savoir si Dieu est de notre côté. Mon plus grand souci est d'être du côté de Dieu, car Dieu a toujours raison. » C'est sur cette position qu'il faut s'appuyer. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, mais ce qui est juste, et la parole a toujours raison. Vous voyez, lorsque nous nous concentrons sur qui a raison ou avec qui vous tenez-vous, cela nous amène à nous concentrer sur les gens La réponse correcte est « Nous nous tenons avec Dieu et avec lui sur sa parole. » C'est ce qui est juste. Revenons à Acte 16. Nous avons examiné Acte 15 et le Concile de Jérusalem et nous avons constaté que les apôtres et les anciens étaient présents, et plus particulièrement les apôtres. Regardons le résultat de ce qu'ils ont fait. C'est ici, au verset 4 du chapitre 16, que l'expression « apôtres et anciens » apparaît pour la dernière fois dans le livre des Actes. Ceci est également remarquable. Acte 16, verset 4. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Voilà les ministères qui servent et travaillent ensemble. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Regardez le résultat de tout cela. L'Église était dans l'impasse, les apôtres étaient présents pour approuver cette décision et donner leur avis, et puis, boum, les Églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le résultat de la controverse et la solution d'Acte 15 est que la foi de Jésus-Christ a été établie dans les Églises. Elles ont déterminé que l'œuvre accomplie du Christ par la grâce pour tous les hommes était le bon chemin sur lequel Dieu voulait qu'elle s'engage. Le chemin consistant à ajouter une autre condition au salut et à l'acceptation des personnes par Dieu n'était pas le bon. Ouah ! Pourtant, nous voyons constamment des conditions à l'acceptation et au salut de Dieu, autres que le sacrifice du Christ, imposées aux chrétiens. Quelque chose ne va pas avec cette image du christianisme si nous sommes sauvés par autre chose que par la grâce, par le Christ. Voyons maintenant le contraste. Dans Actes 22-21, plusieurs années plus tard, nous savons, d'après le récit, que Paul n'aurait pas dû aller à Jérusalem. Dieu ne voulait pas qu'il y aille. La famille le lui a dit, et il y a même eu un prophète qui est venu lui dire qu'il ne devait pas aller à Jérusalem. Mais il y est allé quand même. Nous ne devrions pas tout trop mépriser Paul pour sa décision, car nous avons tous été coupables à un moment ou à un autre de faire quelque chose que Dieu nous a déconseillé de faire ou de ne pas faire quelque chose que Dieu nous a dit de faire. Il y a là une leçon à tirer, mais pas de quoi critiquer. Voyons maintenant la réponse de Jérusalem et des responsables de l'Église. Acte 21, verset 18. Le lendemain, Paul se rendit avec nous, ce qui aurait indiqué la présence de Luc, chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Il n'est pas dit « les apôtres », il est simplement écrit « Jacques et tous les anciens ». Jacques était un leader de l'Église, cela ne fait aucun doute, il a écrit le livre de Jacques, et tous les anciens s'y réunirent, mais où sont les apôtres? Ils sont manifestement absents. C'est intéressant. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, la parole ne nous le dit pas. Mais nous savons qu'ils ne sont pas mentionnés et Dieu a une raison spécifique lorsqu'il déclare ou ne déclare pas quelque chose dans sa parole. Il est donc intéressant de noter que c'est la dernière fois que le mot « disciple » est utilisé dans le récit où Paul se rend à Jérusalem. Acte 21, verset 16. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Mnason, de l'île de Chypre, ancien disciple. C'est la dernière occurrence dans le livre des Actes, chez qui nous devions loger. Dieu ne mentionne plus le mot disciple, un adepte discipliné. C'est intéressant. Et dans ce récit, les apôtres ne sont pas présents. Verset 19. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. C'est de cela que nous voulons parler. Que fait Dieu dans la vie des gens? Regardez la délivrance que Dieu apporte aux gens. Nous recherchons ce que Dieu est en train de faire. Nous nous intéressons à ce qu'il veut. Voici donc ce qu'ils ont déclaré et regardez la réponse. Verset 20. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs, ceux d'Israël, ont cru et tous sont zélés pour la loi. Oh, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. » Voici le contraste avec ce que Dieu a fait. Verset 23. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Faites ce que nous disons. Quel contraste entre ce que Dieu avait fait et maintenant, faites ce que nous disons. Puis il confie à Paul la mission de s'engager dans des normes légalistes afin d'approuver la loi. Il s'agit là d'un leadership descendant, alors qu'une compréhension plus profonde de la grâce de Dieu à travers la foi en Christ frappe à leur porte. Paul était prêt à transmettre la connaissance de cette grâce. Qu'est-ce que Dieu a fait? À cette époque, l'apôtre Paul avait déjà écrit 1er et 2e Thessaloniciens, il avait écrit le livre des Romains, il avait écrit 1er et 2e Corinthiens et Galates. Tout avait été écrit, tout était là pour que les gens comprennent. Et Paul était prêt à livrer ses vérités concernant la révélation du mystère du Christ et de l'Église. Pour autant qu'il ait compris jusqu'à ce point, certainement le Christ en vous, l'espérance de la gloire, moi. Et pourtant, il voulait qu'il fasse ceci. Faites ce que nous disons. C'est de cela qu'il s'agit, d'isoler et de contrôler. Vous savez, il est dit dans Romains 10, 4, que Paul avait déjà écrit à ce moment-là, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Paul n'aurait jamais dû faire ce qu'il lui disait de faire parce qu'il s'agissait d'isolement et de contrôle. Galates 4, 17, selon la version anglaise Amplified Classic. Ces hommes, les docteurs judaïsants, s'efforcent avec zèle de vous éblouir, de vous faire la cour, de faire grand cas de vous. Mais leur but n'est ni honorable ni digne d'un quelconque bien. Ce qu'ils veulent, c'est vous isoler de nous que nous opposons à eux, afin de vous gagner à leur cause et de vous amener à leur faire la cour. Ces enseignants judaïsants sont ceux qui troublent les Galates et pervertissent l'évangile de la grâce en exigeant de Paul qu'il fasse ce que nous disons. Faire ce que je dis, c'est contrôler, diriger du haut vers le bas. Par opposition à faire ce que dit la parole et à mettre en lumière ce que Dieu a fait. Voilà le contraste. Un ministre de l'ère de la grâce veut seulement que les gens fassent ce que dit la parole. Il ou elle n'est pas autorisé par Dieu à contrôler les gens, travailler avec eux, les aimer, les encourager, être un auxiliaire de la joie. Oui. Pour réitérer le contraste entre ces deux récits, quelle est la principale pièce manquante entre acte 15 et acte 21? La principale pièce manquante est l'absence notable des apôtres dans acte 21, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Après avoir suivi ce qu'on lui avait dit de faire, Paul est emprisonné pendant plusieurs années. Dieu a quand même pris soin de lui et il a été productif pour le Seigneur, mais le fait que Paul soit détenu par les autorités romaines et empêché de voyager pour exercer librement son ministère n'était certainement pas la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, à travers la foi en Christ, est immense, et c'est ce que nous voulons gérer, vivre et enseigner. Pour de nombreux chrétiens, la manière de mettre la foi en pratique reste un mystère. Il s'agit simplement de vivre dans l'instant présent, avec notre passé négatif pardonné par la crucifixion et notre avenir fixé dans la gloire par la résurrection, en nous concentrant sur la nouveauté de la vie dans le moment présent. Le Christ en chaque croyant nous donne l'avantage sur le monde. Dieu peut travailler dans chaque croyant. Il peut communiquer directement avec chacun d'entre nous. C'est fantastique. Cela fait partie des avantages d'être membre du corps du Christ. En Ésaïe, chapitre 54, au verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Lorsque Dieu nous enseigne ou ouvre les yeux de notre cœur, lorsqu'il s'implique au plus profond de notre cœur, nous aurons une grande paix. C'est lui qui nous montre, c'est lui qui s'implique profondément dans nos vies. C'est ce que Dieu a fait qui nous intéresse. Vivre et partager la parole est simple, même si c'est parfois difficile. Il s'agit de répondre aux besoins des gens par l'amour et la parole. Les réponses tirées des Écritures aident les gens à aller de l'avant. Lorsque les besoins des gens sont satisfaits, la parole progresse et continue d'atteindre d'autres personnes. Les dons de la grâce de Dieu dans le service, en travaillant ensemble, aident à catalyser le processus. Ensuite, les saints se lèvent et contribuent au travail du ministère. De plus, ils développent leur contribution par l'intermédiaire de l'Esprit et construisent le corps du Christ. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Tous sont notés au pluriel. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le mot « perfectionnement » a le sens de réparer les saints dans leur style de vie, de marcher en nouveauté de vie. Il s'agit de combler les lacunes dont ils ont besoin afin que, lorsqu'ils entrent dans l'abondance de Dieu, ils puissent profiter pleinement de tout ce qu'il offre. Lorsque les besoins sont satisfaits, les gens veulent savoir ce qu'ils peuvent faire. Ils veulent simplement servir. Le travail du ministère en découle. Et lorsque le travail du ministère est accompli, développé et avancé, il conduit à l'édification du corps du Christ où les contributions individuelles par l'intermédiaire de l'Esprit s'unissent magnifiquement pour construire le corps du Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi de la famille, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants sur le plan spirituel et non sur le plan de l'âge, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, Christ, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Il ne s'agit pas d'une, de deux, de trois ou de quatre personnes, mais de tout le monde qui travaille ensemble. Et cela se fait dans l'amour, la tendresse et le pardon. Chacun est important. Chacun peut revêtir l'esprit du Christ parce que chacun a en lui le Christ, l'espérance de la gloire. Et c'est cela qu'il faut enseigner et vivre. Le christianisme n'est pas une question de position ou de titre, mais une question d'utilisation par la famille de Dieu des capacités spirituelles que Dieu a données à chacun d'entre nous. C'est ce qui maintient l'unité entre nous et non pas qui a raison. C'est Dieu et sa parole qui ont raison. Vous pourriez donc vous demander, quelle est la prochaine étape? Eh bien, il y a tellement d'idées inspirées par Dieu, même des technologies et des avenues à poursuivre de nos jours et de telles choses peuvent nous aider à faire avancer le ministère du Christ et à atteindre ceux qui ont faim et soif de justice. Aller de l'avant ensemble avec grâce en tant que croyants remplis de foi mène au succès. Le mystère du Christ et de l'Église doit vivre dans les régions locales et plus particulièrement dans les leaders chrétiens. toute personne qui avance avec Dieu et donne un bon exemple et un bon rythme aux autres. Et lorsque tout le monde verra la vérité de cela et l'adoptera, ce sera une seule voix qui parlera pour libérer l'incroyable potentiel latent dans les vies et le cœur du peuple de Dieu. C'est le commun accord du livre des Actes des Apôtres. Si la parole partagée et ce qui a été dit ont un sens pour vous, voici des choses pratiques que l'on peut faire. Numéro 1. Parlez si nous sommes inspirés lorsque nous rencontrons un légalisme qui contredit la grâce. Soyez très gentil, aimant et clair, mais ferme. Faites savoir aux gens ce que vous savez au fur et à mesure que vous êtes inspiré à le faire. Dieu produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Numéro 2. Exigez une réponse biblique à vos questions jusqu'à ce que vous soyez satisfait. C'est simple. Si quelqu'un affirme quelque chose, demandez-lui, « Pouvez-vous me montrer le chapitre, le verset, s'il vous plaît, pour que je puisse comprendre ?» C'est une façon honnête et biblique d'aborder une impasse entre chrétiens. 3. Prouvez la parole à vous-même. Romains 12, 2 dit que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Actes 17, 11, en parlant des Bériens, déclare « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » 4. Revoir 1 Corinthiens 13 sur l'amour de Dieu. Parce que nous ne nourrissons aucun mal à l'égard de qui que ce soit. Pas d'amertume, pas de colère, non. Juste l'amour de Dieu. 5. Priez abondamment et ouvrez votre cœur à Dieu. Il vous écoute. Dieu dit en Ésaïe 46, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu connaît la fin d'une affaire depuis le début. Il sait ce qui s'est passé dans votre vie et dans la mienne. Il sait déjà ce qui va se passer. C'est pourquoi nous pouvons être en paix et au repos. Nous n'avons pas besoin d'être agités parce que Dieu est impliqué et que ses arrêts subsisteront. Il exécutera toute sa volonté. » Ésaïe 55, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu accomplira ses desseins parce qu'elle est sa parole. Et elle ne retournera point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. La connaissance de la grâce de Dieu par le Christ, où personne n'est au-dessus des autres, est la parole de notre temps. Nous avons tous la même mesure de foi et la même mesure du don du Christ. Nous sommes tous des membres uniques du corps du Christ. Nous sommes tous nécessaires. Nous avons tous des contributions à apporter. Nous avons tous été appelés par Dieu. Telle est la vérité de la parole de Dieu qui guide notre conduite quotidienne. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ta paix. Et Père, nous élevons vers toi les cœurs de ton peuple et nous te remercions pour ta bénédiction, ta sagesse et tes conseils afin de continuer à prospérer sur notre chemin. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.